Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La voix de l'Amérique dans moins de 5 minutes, ce sera Sportrama, l'actualité sportive avec Nicolas Pineau. Jean-Roger Billon à ce microphone. Bienvenue à ce flash d'information. Un crime qui suscite l'horreur au Burundi. Trois religieuses italiennes ont été violées et sauvagement assassinées dans un couvent de Kamenge, une commune de la périphérie de Bujumbura. Hier après-midi, l'assassin a égorgé deux religieuses de 75 et 83 ans avant de s'acharner sur l'une d'elles à coups de pierre sur le visage, selon le directeur général adjoint de la police burundaise cité par l'AFP. La police dit avoir identifié un jeune homme comme étant le suspect des deux premiers meurtres. Attentat suicide en Somalie, 12 civils ont été tués, une trentaine de personnes blessées dans le Bas-Chabelle. L'attaque visait un véhicule blindé de la MISOM, la force de l'Union africaine. La majorité des victimes étaient à bord d'un minibus. Deux soldats de la MISOM ont été également blessés. C'est le premier attentat revendiqué par Al-Shabaab depuis la mort de leur chef. Le 1er septembre, Ahmed Abdi Godan a été tué par une frappe américaine. De son côté, Al-Qaïda a apporté son soutien à Ahmed Oumar Abu Ubaïda, nouveau chef d'Al-Shabaab dans la région. Présidentielle tunisienne, les candidats ont commencé à déposer leurs dossiers auprès des autorités. Ce scrutin prévu pour le 23 novembre est censé parachever le processus de transition démocratique. Chouchou Kaoua.
Selon les médias cités par l'AFP, deux hommes d'affaires ont déjà déposé leurs dossiers. Il s'agirait de Larbi Nasra, ancien patron de Hannibal TV, et d'Eshmi Hamdi, entrepreneur de tendance islamiste installé à Londres. D'autres personnalités ont annoncé leur volonté de se présenter, dont l'actuel président de l'Assemblée nationale constituante, Mustapha Ben Jaffar. Le chef de l'État, Moncef Marzouki, n'a pas encore dit s'il se présenterait au scrutin. En revanche, Hennahda n'entend pas présenter de candidat. Le parti islamiste majoritaire a toutefois indiqué qu'il soutiendrait une personnalité consensuelle capable de réunir tous les partis et de préserver le processus démocratique. Les prétendants ont jusqu'au 22 septembre pour faire acte de candidature, a précisé l'instance chargée d'organiser l'élection.
Ebola, l'Union africaine appelle les pays du continent à lever toutes les restrictions aux voyages mises en place contre l'épidémie. Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, estime que la reprise économique est nécessaire dans les pays touchés.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, s'est rendu aujourd'hui au front dans le sud-est du pays. Il est arrivé à Mariupol alors que l'on signale de nouveaux affrontements de forces gouvernementales et séparatistes pro-russes malgré l'accord de cesser le feu du vendredi dernier. Michel Joseph.
Monsieur Poroshenko a tweeté à son arrivée à Mariupol que cette ville portuaire est Ukraine et le restera. Ceci est notre terre ukrainienne, nous ne la donnerons à personne, a-t-il assuré. Monsieur Poroshenko a ajouté avoir ordonné un renforcement du dispositif défensif avec des lance-roquettes, des chars et une couverture aérienne. Les deux parties en conflit se sont mutuellement accusées de violation du cessez-le-feu depuis que les affrontements ont été signalés à Mariupol et ailleurs dans l'est de l'Ukraine. Selon M. Poroshenko, les forces rebelles ont commencé à bombarder des postes de contrôle de l'armée après l'annonce de son arrivée à Mariupol. Des témoins ont également signalé des tirs à l'arme lourde à Donetsk et autour de cette ville aujourd'hui.
Dissension au sein du gouvernement d'Union nationale en Palestine. Le Hamas accuse le président Mahmoud Abbas de chercher à torpiller l'accord de réconciliation. Hier, le leader du Fatah et chef de l'autorité palestinienne en Cisjordanie avait accusé le groupe islamiste de diriger un gouvernement fantôme dans la bande de Gaza. Le différend survient deux semaines après un conflit de 50 jours entre Israël et le Hamas, conflit qui s'est terminé par un accord de cessez-le-feu. Et visite en Chine de la conseillère à la sécurité nationale des États-Unis, Susan Rice. Elle s'est entretenue aujourd'hui à Pékin avec le chef de la diplomatie chinoise, Yang Jiechi. Sa visite de trois jours devrait préparer celle de Barack Obama en novembre prochain. On termine avec cette nouvelle. Le prince jordanien Zeid Al-Hussein est le tout nouveau haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. C'est le premier arabe et musulman à occuper ce poste. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, gardez vos sièges. C'est le moment venu pour Sportrama avec Nicolas Pineau.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama sur la Voix de l'Amérique, comme tous les lundis soirs dans notre émission. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de Sporama. Et bien sûr, nous attendons vos appels en direct sur le 001 202 619 31 40. 001 202 619 31 40. Avec nous ce soir, nos consultants. On va saluer Salif Kabore à Ouagadougou. Bonsoir Salif.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Ouagadougou.
Et on va faire un grand coucou également depuis Kinshasa, Thierry Kamboundi. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de Sporama.
Voilà, on va évidemment décortiquer l'actualité sportive de tout ce week-end et une actualité très 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 footballistique, vous vous en doutez. On va saluer l'arrivée du dernier consultant, Élisée Oumpatine à Boïkos et ton Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonjour Nicolas et bienvenue au Bénin.
Allez messieurs, la phase de poule des éliminatoires de la CAN 2015 a donc démarré ce week-end sur le continent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les surprises n'ont pas manqué. Dans le groupe A, le Congo, déjà repêché miraculeusement après la disqualification du Rwanda, a été battre le champion en titre chez lui, défaite des Super Eagles du Nigeria, 3-2 à domicile dans son stade fétiche de Kabalar. Bifouma a été l'homme du match pour les Diables Rouges qui n'ont pas disputé une Coupe d'Afrique des Nations, on le rappelle, depuis l'an 2000. Alors Thierry à Kinshasa, la patte de Claude Leroy a donc marché pour le moment. Une belle victoire pour les Congolais qui se positionnent.
Oui, belle victoire pour les Congolais. C'est vrai que je n'ai suivi que la fin de cette rencontre, mais je sais que la patte de Claude Leroy a surtout été ressentie dans cette équipe. Claude Leroy, qui aussitôt arrivé à la tête de la sélection du Congo-Brazzaville, a fait donner comme mission de reconstituer l'équipe. Il est allé pour cela détecter les binationaux, tous les joueurs d'origine du Congo-Brazzaville qui évoluent en France, notamment l'homme de cette rencontre contre les Super Eagles du Nigeria, auteur de deux buts. Donc, c'est un garçon qui évolue en France, justement, qui a été détecté par Claude Leroy. Et ça y est, hein, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville qui, justement, ont eu à disputer le précédent tour, hein, les éliminatoires contre le Rwanda. On sait ce qui s'est passé. Ils ont gagné chez eux, ils ont perdu au Rwanda,
Thierry,
et ont été sortis au tir au but avant d'être repêchés par la CAF suite à la sanction des Tétiama. Donc, bravo, salut à Claude Leroy, qui a encore du pain sur la planche. Hein, et lui qui peut réussir la passe des deux en dominant le Soudan à domicile ce mercredi.
Voilà Thierry, on va poser la question à Salif Kabore. Salif, qu'est-ce qui s'est passé pour le Nigeria ? Accident sérieux ou selon vous, simple erreur de parcours ?
Oui, Nicolas Pinot, il faut dire que le Congo-Brazzaville est une équipe qui monte en puissance parce qu'on l'a vu lors des éliminatoires du Mondial 2014 avec le Burkina Faso notamment, avec le Niger aussi. On a vu que c'était une équipe qui avait la volonté de jouer au football et qui laissait voir effectivement que l'avenir du football congolais était sur le bon chemin. Et vous savez, le Nigeria aujourd'hui traverse une petite crise, même si c'est au niveau fédéral.
Et oui.
Je crois que ça peut toucher forcément l'équipe nationale, les joueurs eux-mêmes, même si Stéphane Keshi reconnaît aujourd'hui que ce n'est pas en tout cas la foudre de guerre, même si le Nigeria a perdu à domicile, mais force est de reconnaître véritablement que le Nigeria n'a pas mesuré la portée de cette formation brazzavilloise qui est venue en tout cas créer la surprise sur ses propres installations là-bas. Et c'est une leçon de football aussi pour le vice-champion qui, lors des prochaines rencontres, sera obligé donc de monter véritablement pour réparer ce qui s'est passé, pour rattraper un temps soit peu le retard. Mais bravo à cette formation congolaise qu'on voyait venir depuis maintenant 2 ans.
Et vous l'avez rappelé, Salif, décision bizarre quand même de la FIFA qui n'a toujours pas suspendu ce nouveau comité exécutif. On sait que le président, évidemment légitime, reconnu par la FIFA, avait fait de la prison pour que cette élection puisse être organisée sans lui. Affaire à suivre, mais pour le moment, vous l'avez rappelé, le Nigeria qui n'est pas suspendu. Élisée Oumpatine à Boïkon, justement, votre analyse sur ce match, sachant qu'il va falloir faire le métier pour les Super Eagles, puisque dans l'autre rencontre du groupe, l'Afrique du Sud est allée l'emporter facilement 3-0 au Soudan.
Ouais, du côté d'Ondouban, 3-0 avec un doublé de l'attaquant de Mamelodi Sundowns. Il faut dire que les Nigériens ont faute à faire, c'est vrai, vous l'avez dit. c'est une erreur de parcours, hein. Il faut le notifier. Maintenant, face à cette équipe du Congo Brazzaville, qui était déterminée, cette équipe qui a bien joué du côté de Porte à Coude, c'est-à-dire que les Nigériens devront vite se rattraper, hein, face à cette équipe sud-africaine. Et Nicolas, il faut le dire, c'est l'équipe sud-africaine réussit souvent, hein, au Nigérian. La dernière confrontation qui a eu lieu entre les deux équipes, eh bien, cette dernière confrontation a vu la victoire des Nigériens en déplacement, hein, du côté de Johannesburg. On s'est dit que les Nigériens doivent vite se reprendre maintenant. Cette équipe congolaise, une équipe qui a supprimé plus d'un, puisque là, franchement, Claude Leroy a mis une stratégie, a mis un plan sur place. Est-ce que les Congolais ont bien respecté? Et samedi dernier, on a vu une équipe qui a dû presser les Nigériens. C'est comme si les Congolais évoluaient à domicile, malgré la forte mobilisation qui a eu lieu derrière les Super Eagles.
Merci beaucoup. On va parler à présent d'une autre équipe ouest-africaine, évidemment, qui a retrouvé le sourire. C'est le Mali dans ce groupe B. Mais avant cela, Christian Gourcuff a réussi son examen d'entrée avec l'Algérie. Victoire 2-1 en Éthiopie, une victoire précieuse. Les Fennecs accueilleront les Aigles du Mali lors de la prochaine journée à Blida. Un match décisif pour la première place de ce groupe, puisque les Maliens l'ont emporté 2-0 à Bamako face au Malawi. Avant de vous entendre, on va écouter Henri Kasperzak, le sélectionneur du Mali.
Ça prouve que cette équipe malienne, elle est solidaire. Elle veut faire des bons résultats. Bon, pour l'instant, c'est difficile, là, tout de suite. Elle parlait que tout va bien, qu'on a même joué avec un joueur de moins. Je crois que ce qui est important, c'est que quand même, ce soir, on a vu une collective, une équipe qui a gardé cet état d'esprit pour gagner. Ça, c'est très important. Et je crois que même si parfois, bon, on a fait des erreurs, bon, ça c'est le football. Et en plus, on a tombé contre une belle équipe qui joue bien au ballon. Donc c'est très encourageant de voir cette équipe malienne qui a joué jusqu'au bout, qui a joué pour gagner et qui a marqué encore à la fin du match, deuxième but. Moi personnellement, je peux uniquement féliciter aux joueurs et puis les remercier par leur courage, par leur engagement, hein, dans ces matchs.
Voilà Henri Kasperzak, le sélectionneur du Mali. On va prendre un auditeur en ligne. Il s'agit de Toumani Fadjin Kone qui nous appelle depuis le Mali. Bonsoir Toumani.
Bonsoir, comment allez-vous?
Très très bien. Alors Toumani, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match?
Ben, sur notre match, bon, je dirais que le Mali n'a pas mal commencé. Mais cependant, il faut bien dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Puisque si on fait une analyse globale de la situation, on dirait vraiment que il y avait beaucoup de choses qui manquaient à l'équipe. Notamment le milieu offensif, c'est le Keita qui nous comptons beaucoup, n'a vraiment pas montré beaucoup de choses. Mais cependant, il y avait un jeune du nord de Yagouassila qui a vraiment beaucoup joué et qui a été rentable pour l'équipe. Donc, dans l'ensemble, je dirais que si jamais nous continuons sur ces lancers, bon, on risque de croiser le fer, c'est-à-dire l'Algérie qui est un adversaire très très redoutable. Je ne pense pas qu'avec cette formation qu'on pourrait vraiment faire face au poids algérien du mois prochain qui se jouerait le mercredi prochain.
Contre Blida.
Donc, il faut vraiment faire quelque chose.
Eh ben, écoutez, merci Toumani pour cette intervention depuis le Mali. On va poser la question à Salif. Salif Kabore, est-ce que vous avez été convaincu par l'animation offensive des Maliens, notamment avant le grand rendez-vous, hein, contre les Fennecs algériens? Ce sera mercredi à Blida.
Oui, ça va être un match très difficile, surtout quand on sait que l'équipe algérienne perd maintenant difficilement à domicile. Mais je dirais que le Mali a fait l'essentiel, hein, lors de cette première journée en gagnant le Malawi. Je crois que c'est une belle opération qui permettra à cette formation malienne certainement de corriger les erreurs, hein. Si erreur qu'il y a eu au cours de son premier match contre le Malawi. Mais force est de reconnaître aussi que dans ce groupe-là, même si l'Algérie a gagné de l'autre côté, en tout cas, le groupe sera relancé vraisemblablement au cours de la deuxième journée. Parce que vous savez, l'équipe du Malawi est très, très difficile à battre, hein, chez elle. Et l'histoire même reconnaît que les récentes défaites de l'équipe du Malawi à domicile, c'était contre le Burkina Faso 1-0 et contre la Côte d'Ivoire, lors donc des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, où les Ivoiriens avaient gagner difficilement sur les Malawi. Donc c'est pour vous dire que c'est une équipe malawite qui peut à tout moment renverser la vapeur. Mais voyez, vous avez vu également que l'équipe de l'Éthiopie qui a été battue donc par l'Algérie, en tout cas, va essayer de revenir, hein, sur la plus haute marche du podium, quand on sait que c'est une équipe aussi qui avait joué la CAN 2013 en Afrique du Sud. Donc, c'est pour vous dire que dans ce groupe, rien n'est encore joué. Mais attention à cette formation de l'Algérie qui a déjà une avance et qui peut en tout cas rebelloter à Blida, le stade mythique, hein, où il est difficile donc de battre les Fenech.
Et oui, à noter que l'Algérie pourrait bien se voir sanctionnée si ses supporters se comportent mal. La fédération algérienne a déjà reçu un blâme de la FIFA pour comportement antisportif. On parle à présent d'un groupe qui vous intéresse, Salif. C'est évidemment le groupe C. Les vice-champions d'Afrique burkinabè se sont imposés au stade du 4 août à Ouagadougou devant le Lesotho. Pitroapa et Alain Traoré donnent la victoire aux étalons. On va d'abord écouter la jointe d'Alain Traoré au micro de Salif Kabore.
Le plus important, c'est de marquer le plus vite possible et puis essayer de gérer, parce que c'est un match de coupe, c'est pas un match de coupe. Les matchs de coupe sont différents, il faut tout jouer à fond. Mais là, je pense que c'est les trois points qui étaient importants ce soir. Et voilà, on les a. Maintenant, il faut bien récupérer et puis essayer d'aborder le deuxième match comme on a eu à faire ce soir.
Voilà, Alain Traoré. Alors, Élisée Moupatine, bon début évidemment de parcours des étalons, hein.
Bien évidemment, puisque c'est une équipe qui est très attendue, hein, après son parcours lors de la dernière phase finale de cette Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud avec cette finale. Donc les étalons sont vraiment attendus. Et puis cette rentrée à domicile de la plus belle des manières avec surtout à l'intérieur, on l'a écouté, très heureux, le transfuge de l'AS Monaco et qui aura faute à cette saison. Les Burkinabè devront se batailler très fort puisque leur prochain rendez-vous ce sera du côté de Luanda face à une équipe angolaise battue d'ailleurs par le Gabon. Mais attention, puisque Paul Puit a un effectif qui est à sa disposition et c'est un effectif qu'il maîtrise très bien. C'est un groupe qui se connaît il y a cela très 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 longtemps.
Alors évidemment, Salif Kabore à Ouaga, vous avez suivi ce match. Cette équipe burkinabé est bien partie dans cette nouvelle campagne africaine selon vous?
Oui, une équipe qui est bien partie invraisemblablement, parce que on a vu que contre l'équipe de Lesotho, les Burkinabés ont démarré timidement la rencontre, hein, laissant beaucoup d'espace parce que les Burkinabés avaient beaucoup créé cette formation du Lesotho qui avait auparavant réalisé 7 matchs sans défaite. Donc ça faisait que du côté du Burkina Faso, on était un peu méfiant, on voulait un peu observer cette formation du Lesotho. Mais ce qui a été fait, bon, et à un moment du jeu, je n'ai pas puis trois pas a décidé donc de foncer et puis bon voilà, il ouvre le score à la 11e minute de jeu. Malgré cette ouverture du score, l'équipe du Lesotho n'a pas baissé les bras. C'est une équipe qui avait essayé en tout cas de passer par les ailes parce que c'est la force de cette formation des crocodiles et on a joué un peu à toi à moi jusqu'à la pause et puis bon voilà, dès le début de la seconde période, Alain Sidri Traoré donc réalise un lob à la 49e minute de jeu et c'est une chance pour ce deuxième but parce que nous c'était en tout cas l'imprudence du gardien donc du Lesotho. En tout cas la rencontre se serait terminée sur la note étriquée de 1-0, mais heureusement pour les Burkinabés ça a été 2-0 et ça leur permet donc d'apporter la prochaine rencontre à Luanda contre l'Angola en toute sérénité et je crois que les Burkinabés, comme vous l'avez dit, semblent être bien partis.
Merci beaucoup, hein. Vous l'avez rappelé messieurs, le Gabon qui a battu l'Angola 1-0. On passe évidemment au groupe D, l'une des sensations du week-end, c'est la victoire à Lubumbashi des Lions Indomptables du Cameroun qui se relance évidemment après une Coupe du Monde désastreuse. Niger et Aboubakar ont crucifié 2-0 les Léopards de la RDC. On va d'abord écouter le défenseur camerounais Nicolas Nkoulou.
Oui, je pense que on avait touché le fond et c'est un moment pour nous de rebondir. Je suis très ému et content de ce qu'on a démontré aujourd'hui. C'est de bon augure pour la suite, il ne faut pas non plus s'enflammer, c'est qu'un match. On savoure ce qu'on a fait aujourd'hui, mais il reste du travail. On va continuer de travailler ensemble.
Voilà Nicolas Nkoulou, le défenseur camerounais. On va prendre Rodrigue Johan Gokapé qui nous appelle depuis Yaoundé. Bonsoir Rodrigue.
Bonsoir.
Alors Rodrigue, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Lions Indomptables version 2014 sans Samuel Eto'o?
On avait presque perdu le coup de la victoire avec les Lions. On a juste dit qu'ils commencent de regagner, quoi.
Et vous pensez que le ménage a été fait après cette Coupe du Monde désastreuse et cette image très mauvaise du Cameroun?
Nous pensons qu'il est très tôt pour le dire, vraiment, puisqu'ils nous ont déjà fait le coup une fois et vous, avant la Coupe du Monde, un match amical contre l'Allemagne.
Contre l'Allemagne, eh oui.
avant ce match, tout le monde n'attendait, personne n'attendait plus rien de cette équipe-là. Bon, quand ils ont fait un match contre l'Allemagne, on était tellement en joie, on était fiers, on s'attendait à beaucoup de choses. Ça allait vraiment nous décevoir à la Coupe du Monde. Donc, jusqu'ici, on attend de voir la suite.
On attend de voir la suite. Et évidemment, du côté congolais, on attend aussi de voir la suite. Avant de vous entendre, on va écouter Florent Ibengué, déçu forcément, le nouveau sélectionneur congolais.
L'explication du match est simple, c'est-à-dire que on connaissait cette équipe du Cameroun qui était bien en place, bien costaud. Nous, il nous fallait mettre de la vitesse. Et c'est ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Donc, on les a laissés jouer. Et c'est bien dommage. On est revenu avec des meilleures intentions, mais on était déjà mené à 1-0. Ils sont restés bien en bloc. On les a mis en difficulté. On a eu des possibilités de revenir au score. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et puis, on a pris un contre. Aujourd'hui, ils ont eu un joueur qui a été... excellent pour leur équipe, c'est Choupo-Moting, il nous a vraiment fait du mal. Donc voilà, l'explication elle est toute simple. On n'a pas réussi à mettre le rythme qu'on devait mettre face à cette équipe qui est quand même bien huilée.
Florent Ibengué, le nouveau sélectionneur congolais. Alors je me tourne évidemment vers Kinshasa, Thierry Kambundi. Thierry, qu'est-ce qui s'est passé? Les lions qui ont rugi plus fort que les léopards évidemment. Est-ce que c'est inquiétant selon vous? Dans la presse congolaise, on notait évidemment beaucoup de problèmes de préparation pour les joueurs congolais. Est-ce que c'est grave selon vous cette défaite à domicile?
Oui, c'est très inquiétant. Cette défaite a fait trop mal aux Congolais. Mais elle est logique, hein, pour ceux qui ont suivi le Cameroun ces deux derniers mois. C'est une équipe du Cameroun qui a joué contre une sélection de la République démocratique du Congo. C'est pour résumer l'affaire. Cette équipe du Cameroun a disputé les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Elle a pas préparé pendant un mois pratiquement la Coupe du Monde avant d'y participer, même si les résultats n'ont pas suivi. Malgré le départ de la génération Samuel Eto'o à la retraite, c'est l'ossature de l'équipe est restée. Les Choupo-Moting, les Nicolas Nkoulou, les Mbia et Nokeyong et consorts étaient là et il y avait 8 mondialistes sur le terrain hier à Lubumbashi. C'était tout à fait normal contre une équipe de la République démocratique du Congo qui, depuis le départ de Claude Leroy en juillet 2013, ne s'est regroupé que 10 jours avant ce match contre le Cameroun, avec un nouveau sélectionneur, une nouvelle philosophie, des nouveaux joueurs qui sont arrivés, de nombreux cadres qui étaient absents. Dieu merci, Mbokani,
Mputuma, oui, blessés, oui.
Diba et consorts. C'est une technologie qu'on en arrive à ce résultat. Le coach, le sélectionneur national que nous venons d'avoir tout à l'heure a confirmé également que le capitaine Youssouf Moulumbu, qui était blessé et qui est sorti à la 20e minute du match contre le Cameroun, ne sera pas présent ce mercredi contre la Sierra Leone. Le malheur se poursuit pour la RDC qui, on l'espère en tout cas, va se ressaisir ce mercredi pour faire un peu plus plaisir à son public.
Et oui, ça ne va pas être facile évidemment Thierry, puisque les Congolais sont bien mal engagés, puisque dans le même temps, la Côte d'Ivoire a battu la Sierra Leone 2-1 après avoir été menée au score. Les éléphants ont su rebondir grâce à Doumbia et Gervinho. On va avoir en ligne un auditeur qui nous appelle de Côte d'Ivoire à Dabo, c'est Virgile. Bonsoir Virgile.
Oui, bonsoir.
Alors Virgile, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Et on apprend aujourd'hui que Didier Zokora annonce sa retraite internationale. Est-ce que ça vous a plu, cette sélection version Hervé Renard?
Bon, effectivement, bon, je ne crois pas exactement que ça m'a vraiment plu. Le fait que Drogba même déjà m'avait donné sa retraite internationale déjà m'a vraiment touché. Ensuite aussi, Zokora aussi, c'est vraiment toutes ces... C'est parce que je ne sais pas exactement dans le système de la Fédération ivoirienne de football. Le fait de Drogba, effectivement, il a bien commencé. Il ne sait pas exactement. Le problème se pose, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qui a poussé Drogba à vouloir quitter l'équipe nationale? Ensuite, Zokora aussi. Parce que soit Hervé Renard n'a pas appelé pour pouvoir jouer ses matchs, soit l'a pas placé parmi les 23 joueurs de ce match Côte d'Ivoire Sierra Leone. Mais ce match n'a pas été vraiment au top niveau des Ivoiriens parce que vraiment, la première mi-temps vraiment, vraiment dominée, mais effectivement, tout était un peu embarrassant avec cette très bonne équipe de la Sierra Leone qui a vraiment poussé, réussi, vraiment fait le grand jeu par rapport, à la première minute et au commencement de ce match et puis à vraiment faire de plein en marquant le premier but.
Ouais, on va poser la Virgile. Oui. On va poser la question à Élisée Oumpatine. Élisée Oumpatine, est-ce que la Côte d'Ivoire version Hervé Renard vous a plu sur ce match? Ils ont eu du mal à rentrer dans le match, hein, les éléphants qui ont longtemps été menés 1-0. Hein.
Bien évidemment, c'est une équipe qui n'a pas trop convaincu, hein, c'est vrai, puisqu'il faudra changer quelques cadres qui étaient absents, qui ont annoncé leur retraite internationale. Donc, c'est-à-dire que Hervé Renard doit chercher la bonne formule, puisque si l'équipe Sierra Leonaise était une équipe expérimentée, alors là, ce serait très difficile. Si c'était le Cameroun qui était à Abidjan, au Félicia, ce serait très difficile à remonter, puisque les deux buts ont été inscrits sur des erreurs défensives. C'est-à-dire que côté camerounais, eh bien, Nkoulou, encore Tidjou, n'auront pas à commettre ces erreurs-là. Maintenant, Hervé Renard doit rapidement trouver la bonne formule, mettre les joueurs en confiance, et peut-être que ça pourra marcher, mais il faudra certainement du temps.
Alors Élisée, vous restez avec nous. Dans le groupe F, un petit démarrage des Black Stars du Ghana, freiné un partout contre l'Ouganda. Hein.
C'est vrai, puisque les Ghanais étaient très attendus, mais attention, puisque les pays venus, les équipes venues de l'Afrique australe, ce sont souvent des équipes très difficiles à manœuvrer. À l'instant même, le Malawi, hein, qui a éliminé le Bénin, on se rappelle. L'Ouganda aussi, qui a une très bonne équipe, hein, avec des joueurs qui évoluent dans le championnat sud-africain, avec des joueurs qui évoluent dans le championnat congolais, notamment tout-puissant Mazembe. C'est-à-dire que c'était très difficile, puisque les Ougandais ont surpris les Ghanéens qui sont allés chercher cette égalisation. C'est-à-dire que ça a été très difficile, puisqu'il y a eu tellement d'impact physique et tactique à côté des les Ougandais se sont imposés tactiquement et physiquement, ce qui a rendu la tâche très difficile à ces Ghanéens-là, qui ont trouvé la bonne formule pour revenir au score. C'est-à-dire que pour les prochains rendez-vous, ça s'annonce très difficile à cette équipe entraînée par Kwesi Appiah.
Et oui, un nul qui profite au Sili National de Guinée, hein, qui a battu le Togo de Buzyn. On va prendre en ligne Hamza Kaba, qui nous appelle depuis la Guinée. Bonsoir.
Bonsoir, M. Pino.
Alors, évidemment, cette victoire vous plaît, hein, le Sili National, bien parti dans ces éliminatoires.
Oh, je dirais bien que le Sili National est bien parti. Et c'est une équipe très jeune aujourd'hui, et que là pour faire, s'il faut le dire, la relève. Et
oui.
Si l'on prend aussi les joueurs qui composent cette équipe-là, alors ça donne l'espoir que toute la Guinée aujourd'hui qui est contente. Et vu le virus que nous avons aujourd'hui sur le dos, alors une victoire de l'équipe nationale, ça a donné l'espoir à tout le peuple de Guinée.
Évidemment. Merci beaucoup, Hamza, de nous avoir appelé depuis la Guinée. Salif Kabore, le retour d'Emmanuel Adebayor avec les éperviers n'a pas suffi sur ce match. Hein.
Oui, le retour donc qui ne suffit justement pas pour permettre à l'équipe togolaise en tout cas de faire une bonne prestation. Et bien, face à cette formation de la Guinée qu'on a créée, hein, ça a été très difficile quand même pour les Guinéens, même si la rencontre a tourné à leur avantage. Mais le Togo qui vraisemblablement n'a pas bien préparé ce rendez-vous est en train donc de payer cash, surtout avec la guerre qui n'en finit jamais. On sait donc de l'encadrement avec joueurs et puis fédération. Donc tout cela, je crois que ce sont des ingrédients qui sont réunis, mais je crois que les Togolais ont intérêt à se ressaisir s'ils veulent en tout cas revenir sous la plus haute marche du podium.
Et Thierry, évidemment, dans le groupe F, c'est intéressant quand même ce match Zambie-Mozambique 0-0 et surtout le Cap-Vert qui continue de surprendre les requins qui sont allés s'imposer 3-1 à Niamey face au MENA du Niger. Et surtout, Thierry, dans le groupe G, deux équipes qui ont déçu récemment sur le plan continental, c'est l'Égypte et le Sénégal, et les Sénégalais qui ont été plus forts, qui l'ont emporté 2-0.
Eh bien, la magie du stade Léopold Sédar Senghor a joué en faveur des Lions de la Teranga du Sénégal, qui retrouvaient leur public 2 ans après et qui ont fait le nécessaire. Ils ont réussi à battre une équipe égyptienne, vous l'avez dit, qui peine à retrouver sa suprématie sur le continent et qui, visiblement, aura des matchs très, très difficiles à disputer dans ce groupe si élevé pour essayer de retrouver le haut niveau de la Coupe d'Afrique des Nations.
Et dans le même groupe, évidemment, la Tunisie a eu chaud en battant sur le fil le Botswana à domicile 2-1. Voilà, ainsi s'achève ce Sporama. On va évidemment saluer à Kinshasa Thierry Kamboundi qui était avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de Sporama.
Un grand coucou au Bénin, à Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et puis à lundi prochain.
Et un gros coucou évidemment à Salif Kabore, hein, après la belle victoire des étalons. Salut Salif. Voilà Salif Kabore qu'on retrouve
sur la radio.
Merci beaucoup. La mise en onde assurée par Joselle Morissin. Nicolas Pineau était à la présentation. Je vous souhaite évidemment une excellente soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique. On continue à parler de sport sur la page Facebook de la VOA. À très bientôt.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.